Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Grâce à Mzati à la présentation. Lancement ce vendredi des épreuves préliminaires de l'examen d'État édition 2025 sur toute l'étendue de la République, excepté les zones occupées par les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda. L'Association nationale des parents du Congo appelle le gouvernement à tout mettre en œuvre pour que cette année ne soit pas une année blanche dans les entités contrôlées par le M23. Les rebelles du M23 se sont retirés sans combat hier de la localité de Kaeri, située à plus ou moins 35 km de Lubero Centre, au nord Kivu. Selon la société civile locale, c'est l'armée ougandaise UPDF qui occupe cette entité où une accalmie est observée. L'invité de ce journal est Fabien Mayani, cadre du consortium Congo n'est pas à vendre. Il parlait des déséquilibres dans l'avenant 5 à la convention sino-congolaise. Sa structure déplore qu'une année seulement après sa signature, cette clause ait entraîné un manque à gagner de plus de 130 millions de dollars pour l'État congolais. Bonjour à tous. Des dizaines de candidats autodidactes du Nord Kivu ne participent pas à l'épreuve préliminaire de l'examen d'État 2025 lancé aujourd'hui sur l'ensemble du territoire national. En cause, le report par le gouvernement congolais de cette épreuve. Ces derniers évoquent les raisons sécuritaires qui ne permettent pas d'organiser ces rendez-vous. Plusieurs entités au Nord Kivu étant occupées par les rebelles du M23. L'Association nationale des parents du Congo, ANAPECO, salue cette décision qu'elle qualifie de responsable et démurie. Elle déplore cependant le fait que les enfants soient victimes de cette situation. Elle demande aux autorités nationales de tout mettre en œuvre pour que cette année ne soit pas une année blanche au Nord Kivu. On écoute Steve Diatezoa, président national de l'ANAPECO, au micro de Denis Lukeso.
Quoique une mesure bien réfléchie, mais nous sommes tout de même éplorés dans la mesure où nous avions voulu que l'épreuve se passe au même moment sur l'ensemble du territoire national. C'est pourquoi nous exhortons les autorités nationales, notamment le chef de l'État, de tout faire pour que cette année ne soit pas perdue pour les finalistes du Nord et du Sud Kivu. Il faut que rapidement interviennent nos forces armées pour libérer ce territoire et rétablir l'ordre et les services administratifs qui permettront aux élèves et aux étudiants de vaquer librement leurs occupations pour que l'année ne soit pas une année blanche.
Le gouvernement annonce cependant une session spéciale pour les candidats finalistes du Nord Kivu 1, Sud Kivu et 3. Au Sud Kivu pendant ce temps, les écoles ne fonctionnent pas depuis 3 semaines dans plusieurs entités du territoire d'Uvira. C'est à la suite de la psychose observée dans la zone depuis la prise de Kamanyola dans les territoires de Walungu par les rebelles du M23. La société civile d'Uvira redoute que cette année soit déclarée blanche pour des milliers d'élèves. Martial Kizabiamungu.
Deux écoles publiques et privées de Katogota, Bouegira, Luvungi, Sangue, Kiliba ne fonctionnent plus il y a plus de 3 semaines. La plupart d'élèves et enseignants ont fui l'avancée des rebelles du M23 à la plaine de la Ruzizi. Certaines se sont réfugiées au Burundi et d'autres vers la Tanzanie. Selon la société civile d'Uvira, cette situation est similaire aux chefs-lieux de ces territoires où même les institutions universitaires n'ouvrent plus leurs portes. Freddy Moudeba indique que cette situation risque de pousser des milliers d'élèves et étudiants à une année blanche. Il demande au gouvernement de tout faire pour restaurer la paix dans cette région pour sauver cette année scolaire.
L'ennemi est encore à Kamanyola. En tout cas, les parents ont du mal à envoyer leurs enfants à l'école. Et c'est comme ça que jusque là, vraiment, il n'y a pas même l'espoir que les enfants puissent rentrer à l'école. Et c'est pourquoi nous demandons que le gouvernement fasse tout pour que la paix revienne dans le Sud Kivu pour permettre peut-être aux enfants de pouvoir fréquenter. Parce que l'école, c'est quelque chose qui est très important dans la vie.
Il ajoute que la non-scolarité de ces enfants les expose aux actes rétrogrades dans la société.
Sécurité. Dans les territoires de Lubero Nord Kivu, les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda se sont retirés hier de Kaeri, une localité située à plus ou moins 35 km de Lubero Centre. Selon la société civile locale, ces rebelles se sont retirés sans combat et l'armée ougandaise UPDF l'a occupée, s'interposant des faits entre les deux forces en présence. Pour le moment, c'est une accalmie qui est observée dans la région. André Kitenge.
C'est depuis le dimanche 2 février que les rebelles du M23 avaient occupé la localité de Kaeri après des affrontements avec les FRDC. Selon des sources locales et sécuritaires, après 5 jours d'occupation, les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda se sont retirés de Kaeri pour se replier à Kasuo, une localité située à 15 km de Kaeri et 50 km à l'ouest de Lubero centre où ils sont présentement concentrés. Les mêmes sources rapportent que ce sont les soldats de l'armée ougandaise UPDF qui occupent pour le moment cette localité. Difficile pour le moment de savoir d'où serait venu l'ordre du retrait des rebelles du M23 de cette localité. Toutefois, précisent nos sources, le M23 reste présent à 15 km de Lubero centre. Malgré ce retrait, la société civile se dit préoccupée par le risque de nouveaux affrontements dans la région. Pour l'instant, indique l'armée, une accalmie est observée sur l'ensemble des lignes de front dans le territoire de Lubero.
Merci à vous, André Kitenge, pour toutes ces explications. La première ministre Judith Suminwa-Tuluka poursuit sa tournée dans la province du Congo central dans le cadre de la campagne « Congolais Téléma ». Entendez, Congolais lève-toi pour défendre la patrie. Hier, elle a visité le centre d'instruction des commandos de Tombangadio, situé dans le secteur de Palabala, dans les territoires de Songololo. La chef du gouvernement a dans son message à l'endroit des nouvelles recrues au sein des forces armées de la RDC rappelé les efforts que le gouvernement est en train de conjuguer pour améliorer les conditions socio-professionnelles des hommes en uniforme. On écoute l'extrait de son message que nous propose Nana Plurichimambu.
Nous n'avons qu'un seul pays. Nous n'en avons pas deux. L'ennemi ne peut pas venir comme nous avons vu à l'est à Goma, à Bukavu et dans d'autres localités où le Rwandais et les M23 étaient entrés. Ce n'est pas une bonne chose. Chacun, là où il se trouve, doit se lever pour défendre notre terre. Vous, les nouvelles recrues et futurs soldats, vous allez défendre notre pays avec les capacités que vous êtes en train d'acquérir ici au centre de recrutement et de formation. Donc, je veux vous dire aujourd'hui que nous, le gouvernement, ne vous avons pas oublié. Nous devons vous soutenir. La mobilisation est totale. Nous, membres du gouvernement et d'autres institutions, avons commencé une collecte pour l'effort de guerre. Cet argent, en plus de ce que le gouvernement met dans le cadre de son budget, va vous aider afin que vous soyez dans les bonnes conditions.
Après le centre d'instruction de Tombangadio, la première ministre Judith Suminwa a tenu un meeting populaire à Kimpese, toujours dans le territoire de Songololo, avant de se rendre au camp militaire Ebeya dans les territoires de Mazangongo pour encourager les militaires qui y habitent. L'actualité, c'est aussi la MEFECA, mission d'établissement des faits du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, qui convie quiconque à des renseignements ou toute autre information relative aux allégations des violations du droit international humanitaire de les lui faire parvenir. Ces renseignements concernent également ceux touchant les violations sexuelles et basées sur le genre commises lors des hostilités ayant abouti à l'occupation des villes de Goma et Bukavu dans les nord et sud Kivu. Billy Van Lotumba nous en parle.
Outre les individus, cet appel à contribution est adressé aussi à tout groupe ou organisation disposant des informations ou documents pertinents à même de permettre l'élaboration des rapports publics de la MEFEC, y compris ceux destinés au Conseil des droits de l'homme et à l'Assemblée générale. Avec le consentement des informateurs ou renseignants, elles pourront également être communiquées à des mécanismes de redevabilité, notamment dans le cadre d'enquêtes criminelles et d'autres procédures judiciaires. La MEFEC souhaite obtenir des informations sur les principaux responsables des violations, y compris l'identité des individus, des organisations ou des groupes, ainsi que sur l'identité des victimes et des témoins avec lesquels la mission d'établissement des faits pourrait s'entretenir. Ceci implique une question de sécurité pour toutes ces sources d'informations. À ce sujet justement, la MEFEC répond qu'elle y attache une importance primordiale, notamment en ce qui concerne le respect de la confidentialité et du principe « ne pas nuire, ne pas mettre en danger la vie, la sécurité, la liberté et le bien-être des victimes, des témoins et des autres personnes qui coopèrent avec elle. L'identité des personnes coopérantes et l'utilisation des informations fournies seront strictement soumises à leur consentement éclairé, précise la mission d'établissement des faits du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme. Quant à la procédure de soumission des renseignements, prière consulter toutes les plateformes numériques de Radio Okapi.
Santé. Bien que l'épidémie de choléra baisse d'intensité dans la ville d'Uvira au sud Kivu, la situation demeure critique dans des zones de santé environnantes de la Ruzizi. Médecins sans frontières MSF fait remarquer que la cité de Sangé enregistre à elle seule une centaine de cas de choléra. MSF soutient le ministère de la Santé dans la riposte contre cette épidémie dans les zones de santé d'Ouvira et Ruzizi. Edwige Bagula, coordonnatrice médicale pour Médecins sans frontières, indique que le manque d'accès à l'eau potable accélère la propagation du choléra dans ces zones de santé. Elle est dit au micro de Radio Capi.
Nous avons déjà effectué une première donation des intrants de prise en charge aux différents centres de traitement de choléra, les CTC d'Ouvira, les CTC de Sangue et celui de Kamagnola. Ces donations que nous avons faites, vraiment, elles sont insuffisantes. Et pour nous, des prochaines donations s'avèrent diligentes en plus des actions de prévention que MSF voudrait bien mettre en œuvre pour couper rapidement la chaîne de transmission. Néanmoins, avec la situation sécuritaire complexe que traverse la province du Sud-Kivu pour le moment, il n'est pas vraiment facile d'acheminer de l'aide aux populations en besoin depuis la coordination des Médecins sans frontières à Bukavu. Ceci affecte notre rapidité traditionnelle en tant que Médecins sans frontières à mettre en œuvre les interventions urgentes pour soulager la souffrance ainsi prendre en charge ses bénéficiaires.
Ici à Kinshasa, la clinique Magnolia, située sur le boulevard du 30 juin au numéro 1525, organise sa première campagne gynécologique de consultations et échographies gratuites. Cette campagne dédiée aux femmes s'organise du 3 au 31 mars dans le cadre du mois de la femme. Selon la fondatrice de cette structure sanitaire, cette campagne est destinée à toute catégorie de femmes afin de leur permettre de connaître leur état sanitaire et vivre en bonne santé. Plus de détails avec Nancy Atambo.
Le revenu insuffisant empêche de nombreuses femmes à avoir accès aux services de santé de base dont elles ont besoin, notamment en gynécologie. Voilà pourquoi la clinique Magnolia a ouvert ses portes à toutes les femmes afin de leur permettre de bénéficier des soins appropriés. Victoria Babandisha explique le sens de cette campagne.
Nous sommes dans le mois de la femme. La clinique Magnolia a pensé à donner l'opportunité aux femmes pour qu'elles viennent faire leurs consultations en même temps. On offre aussi l'échographie. Parce que bon, on a constaté que les femmes jeunes ou un peu plus âgées représentent beaucoup de maladies et les gens s'ignorent.
De son côté, le médecin gynécologue a expliqué quelques diagnostics trouvés auprès de ses patientes. Docteur Michel Mangala.
La plupart des femmes que nous consultons ici, elles ont des problèmes de conception, elles ont des problèmes de masse au niveau abdominal et ces masses, ce sont beaucoup plus des myomes, des kystes et il y a aussi des infections génitales.
Plusieurs femmes ont témoigné du bénéfice de cette gratuité.
Ils sont en train d'aider toutes les femmes. Des frais qu'on devait payer normalement, que ces frais-là qu'on n'arrive pas à les payer, qu'on puisse bénéficier en fait de la gratuité.
Les organisateurs de cette campagne lancent un appel aux femmes de saisir cette opportunité qui va se clôturer à la fin de ce mois dédié aux femmes.
Nancy Atambo sur Radio Capi. Province du Maniema, le parc national de la Lomami dispose de beaucoup de potentialités et d'espèces endémiques pouvant attirer des touristes de renommée internationale. Mais l'accès à ces parcs reste un défi majeur. C'est l'autorité provinciale qui a parcouru ces tronçons dans le cadre de la visite du parc national de la Lomami qui livre l'information. Moussa Kabankoubi Moïse est au micro de Florence Kizalunga.
Nous sommes là dans les domaines de la conservation de la nature. L'apport du gouvernement provincial, comme vous le savez bien, l'une des recommandations phares de l'atelier que nous avons eu sur l'environnement était de promouvoir l'écotourisme. Nous avons vu que le parc il est vaste, c'est plus de 8000 km² et il a beaucoup d'espèces. Il y a des éléphants, des lions, des léopards, des hippopotames, des soulas, donc beaucoup d'espèces endémiques. Ça veut dire qu'il n'existe nulle part ailleurs. Mais nous avons constaté que l'accès au parc, les tronçons qui séparent la ville de Kindu au parc est vraiment inaccessible. Et c'est pourquoi nous avons promis que d'ici le mois de mai, nous pourrions commencer les travaux de réhabilitation de ces tronçons-là de 65 km. Cela nous permettra de faire beaucoup de publicité sur notre parc et de commencer à attirer des touristes de renommée internationale.
Actualité internationale.
Plus de 180 personnes sont portées disparues après le naufrage de 4 embarcations transportant des migrants au large du Yémen et de Djibouti, annonce ce vendredi l'agence de l'ONU pour les migrations OIM, ajoutant ne pas avoir pour l'heure d'informations sur les nationalités des personnes disparues. L'armée soudanaise poursuit sa longue progression dans la capitale Khartoum. Elle a également réalisé quelques progrès il y a quelques jours dans les localités du sud du pays. Les paramilitaires des forces et les soutiens rapides répliquent à Khartoum en frappant à l'artillerie lourde des quartiers résidentiels de la capitale. C'est jeudi 6 mars, les bombardements ont fait plusieurs victimes parmi des écoliers.
L'invité.
Le consortium Congo n'est pas à vendre relève des déséquilibres dans l'avenant 5 à la Convention sino-congolaise. Dans une interview accordée à Radio Okapi, un des cadres de cette structure, Fabien Mayani, déplore qu'une année seulement après sa signature, cette clause ait entraîné un manque à gagner de plus de 130 millions de dollars pour l'État congolais. Pour éviter de nouvelles pertes, il propose que les institutions du pays, dont la présidence de la République, le Parlement, le gouvernement et le comité exécutif de l'ITIE-RDC, prennent des mesures drastiques. Fabien Mayani s'entretient avec Blaise Ndongala Mayanda.
Bonjour monsieur Fabien Mayani.
Bonjour monsieur le journaliste.
Quelle analyse faites-vous de l'avenant 5 à la convention sino-congolaise une année après sa signature?
Cet avenant pose énormément de problèmes parce qu'effectivement la convention de 2008 avait été signée dans l'objectif de développer les infrastructures en RDC et aussi développer un projet minier. Mais ce que nous constatons, c'est que l'avenant numéro 5 a lieu et place de rééquilibrer les intérêts des partis, notamment les intérêts de la RDC. L'avenant crée beaucoup de problèmes, notamment le fait que l'avenant conditionne le financement des infrastructures par le prix du cuivre sur le marché international. Ça, c'est un problème sérieux. Donc, si le prix du cuivre baisse, la RDC n'aura pas de financement pour les infrastructures. Et ça nous étonne que des pareilles clauses soient contenues dans l'avenant 5. D'autre part, nous avons constaté que dans l'avenant 5, on ne parle pas du cobalt, qui est l'un des minéraux clés aujourd'hui dans la transition mondiale vers les énergies vertes, et on ne comprend pas comment le cobalt n'est pas pris en compte dans les calculs des financements des fonds à verser à la RDC pour les financements des infrastructures. Pour nous, l'avenant 5 pose plus de problèmes que l'accord initial lui-même.
Où est-ce que vous situez la cause des déséquilibres relevés dans cet avenant?
Oui, parmi les causes, d'après nos analyses, il n'y a pas une préparation suffisante de la renégociation du côté de la RDC. Pourquoi je dis ça? Parce que d'après nous, Congo n'est pas à vendre. Le gouvernement congolais aurait dû préalablement procéder à des audits, à des évaluations du projet SICOMIN aujourd'hui pour savoir exactement combien on a investi dans les infrastructures et aussi auditer les infrastructures réalisées. Le volet minier également, auditer l'investissement qui a été réalisé dans le volet minier, auditer, avoir une idée plus claire sur la production, sur les bénéfices, sur les revenus générés. Tout ça, ça n'a pas été fait. La question de la préparation est très importante dans la négociation, des contrats miniers. Malheureusement, nous n'avons pas vu une bonne préparation du côté du gouvernement congolais. Un autre élément que nous avons noté, c'est comment on a mis en place la commission de renégociation. Est-ce que on a défini de manière claire les termes de référence de la commission? C'était quoi que la commission de renégociation devait faire? À ce jour, il n'existe pas un document clair du gouvernement qui détermine les termes de référence qui devraient normalement déterminer le travail à faire par la commission. Et pour nous, le premier travail à faire, c'était d'auditer le projet minier de manière exhaustive. Et la bonne manière de le faire, le gouvernement congolais, d'après nous, aurait dû recruter un cabinet spécialisé qui fait l'audit du projet et qui donne les résultats, et cela permettrait à la RDC d'avoir des éléments factuels.
Dans votre note, le consortium Congo n'est pas à vendre parle de plus de 30 millions de manques à gagner en l'espace d'une année. Alors, qu'est-ce que vous proposez au gouvernement congolais pour rectifier les tirs?
La première des choses que nous proposons au gouvernement congolais, c'est d'abord d'auditer le projet SICOMIN, le volet infrastructure et les volets miniers, pour savoir exactement combien on a investi, la qualité des infrastructures qui ont été réalisées, est-ce que les montants qui ont été déclarés représentent réellement les montants qui ont été investis dans ces infrastructures. L'autre chose que nous recommandons vivement au gouvernement congolais, c'est de mettre fin au modèle de la convention sino-congolaise, parce que cette convention a démontré ses limites. Ce que nous demandons au gouvernement congolais, c'est de soumettre le projet SICOMIN au code minier de la République démocratique du Congo, tel qu'il a été révisé en mars 2018. de sorte que la SICOMINE paye les impôts et taxes comme tous les autres projets miniers, et ces impôts et taxes vont financer les infrastructures. Comment on peut utiliser juste moins de milliards pendant 16 ans pour un budget initial prévu de 3 milliards de dollars? Donc, nous pensons qu'il faut appliquer le code minier de la République démocratique du Congo. La SICOMINE va commencer à payer les impôts et taxes et l'État va utiliser ces taxes-là pour financer les infrastructures.
Monsieur Fabien Mayani, nous vous disons merci.
Merci.
Il est exactement 15h20 dans ces studios A des Radio Capi en direct de Kinshasa. Par ici, nous mettons un terme à ces journaux coordonnés par Jude Mister Bilanda et supervisés par Alain Rung. Pierre Diassino a assuré la mise en onde et grâce à Mzati Masanzi était à la présentation. Merci.